Arcania, Chloé Morand-Bridé,
Jacques Lavergne.
Bonjour.
Bonjour.
Arcania, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Extrait du journal d'Anne Frank.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors comme traditionnellement, Chloé, nous commençons par une citation. Les hommes veulent tout avoir, ils se rendent malheureux par le désir du superflu. C'est pas nouveau, c'est très actuel par contre, mais c'est pas nouveau. Ça a été prononcé par Fénelon, qui était un prélat et un écrivain français qui a vécu de 1651 à 1715. Et pour autant, vous voyez, c'est toujours pertinent.
Alors place au menu de l'émission. Nous allons évoquer aujourd'hui dans mon feuilleton la planification environnementale, vous donner des nouvelles de la planète à travers quelques brèves et surtout aborder la problématique des terres rares dont, après les énergies fossiles, nous devenons de plus en plus dépendants.
Voilà, c'est le programme, c'est Arcania et c'est maintenant et le feuilleton, eh bien, la planification. Et c'est le mien, pas
le... Oui.
Deux prétendants à l'élection présidentielle l'avaient mise à leur programme, l'un d'eux a été élu. Il est donc possible que nous ayons un jour une planification dans le domaine écologique. Le mot est dans l'air, mais tout sera bien sûr dans le contenu et le périmètre de celle-ci. Quoi qu'il en soit, on voit mal comment on pourrait parvenir à des changements, pour ne pas dire à une révolution des paradigmes de notre société, sans un plan réfléchi, négocié, recueillant le plus large consensus possible. Puisque le caractère urgent du sauvetage de notre planète, mais surtout des humains qui l'habitent, est dans toutes les bouches, il serait largement temps de passer à l'action. Nous avons perdu des dizaines d'années. Et pour ne parler que des cinq dernières, il est clair, comme le dit le directeur général de Greenpeace dans une interview à l'excellente hebdomadaire Le 1, le bilan écologique du présent mandat d'Emmanuel Macron est largement insatisfaisant. Je dirais même que cela relève de l'euphémisme. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous y jeter à corps perdu. Certains, comme le think tank Shift Project, ont effectué des travaux considérables, travaux transmis aux politiques de tous bords. Énergie, bâti à rénover, mobilité, alimentation, agriculture, biodiversité, artificialisation des sols, etc., etc. Les sujets sont multiples, complexes. Ils touchent toute la population. La planification a bien fonctionné durant les 30 glorieuses et permis de nombreux succès. Il faut la remettre sur le métier urgemment et investir dans l'intelligence, la réflexion, les échanges et se poser la seule question qui vaille vraiment, comment voulons-nous vivre dans les prochaines décennies, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Voilà Chloé, la planification et puis maintenant on va vous écouter dans quelques brèves. Alors la première... Vous allez nous parler du jour du dépassement, je crois.
Tout à fait. Alors pour commencer, je vais parler d'un sujet peu réjouissant, mais c'est mieux pour commencer, à savoir le 5 mai 2022. Le 5 mai dernier était le jour du dépassement de la France. Mais qu'est-ce qu'on entend par jour de dépassement ? Cela signifie qu'à cette date, la France a épuisé toutes les ressources énergétiques et environnementales que les écosystèmes du pays étaient capables de lui fournir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, 18 mai 2022, ça fait déjà 11 jours que nous avons trop pollué, trop déforesté ou encore trop consommé les ressources de la Terre comme les animaux ou les énergies fossiles. Pour le visualiser, ça se résume à peu près à une batterie vide qui ne peut se remplir qu'une seule fois par an. Ça signifierait que passé cette date, nous n'avons plus de ressources donc et que nous devons tenir jusqu'à la fin de l'année pour que nos réserves se remplissent. Mais ça n'est évidemment et heureusement pas le cas. En revanche, ça veut dire que les Français et les autres pays du monde tirent beaucoup trop sur la corde de ce que la Terre et ses écosystèmes peuvent nous fournir. Alors Jacques, si cette image est parlante, comment on sent en sachant ça ?
On se sent quand même inquiet parce que il est vrai que ce qui est très curieux, c'est qu'on en parle sur cette antenne, mais il y en a tellement d'autres qui tirent les sonnettes d'alarme, comme vous le disiez. Et pour autant, on regarde avec un peu plus de sympathie qu'avant, mais on nous prend souvent pour des doux rêveurs. Et on se dit toujours, oui, ça se réchauffe, mais on a le temps. Et puis, nous sommes tellement forts, tellement intelligents qu'on va trouver des solutions techniques, scientifiques, et qu'on va s'en tirer une fois de plus sans faire aucun effort. C'est pas comme ça que ça va marcher.
Et puis, il a neigé cet hiver, après tout. Mais on peut se demander qui nous apporte cette nouvelle plutôt inquiétante et comment. En fait, c'est l'ONG Global Footprint Network qui se charge de ce bilan annuel. Et ces scientifiques identifient nos limites en comparant l'empreinte carbone de nos activités humaines à la capacité biologique de notre planète. C'est-à-dire l'absorption du CO2 par les forêts, par exemple, ou le renouvellement des sols pollués. Vous vous en doutez, ce n'est pas la première fois que nous épuisons nos ressources trop rapidement, et c'est même pire depuis plusieurs dizaines d'années.
Et ça s'accélère. Alors une autre brève, Chloé, les mesures que notre président nouveau et ancien doit adopter pour l'écologie.
Et oui, ça me fait une transition parfaite pour notre prochain sujet, donc la responsabilité de notre cher président réélu en matière d'écologie, et plus précisément les mesures qu'il est urgent de prendre. D'abord, Emmanuel Macron doit mettre l'accent sur les énergies renouvelables et sur la rénovation des logements. En effet, en France, la France n'est pas dans les pays les plus avancés en ce qui concerne ces types d'énergie. Et pour ce qui est de la rénovation des logements, cela permettrait de réduire les émissions de CO2 dont ils sont responsables, notamment car il existe un grand nombre de logements mal isolés en France. Et en plus d'aider l'environnement, cette mesure permettrait de soutenir le pouvoir d'achat et d'améliorer la qualité de vie des Français. Le président doit aussi développer la circulation à vélo qui devrait représenter 15% de nos déplacements, ainsi que le secteur des voitures électriques afin de réduire les émissions de CO2. Et alors vous, Jacques, est-ce que vous vous sentez de vous mettre au vélo pour venir du Lot à Toulouse ?
Alors à la limite, oui, je pourrais venir du Lot à Toulouse en vélo. Par contre, en Toulouse, je n'y rentrerai pas en vélo parce que pour circuler dans une ville aussi encombrée, encore faudrait-il qu'il y ait des pistes cyclables. Alors notre belle municipalité nous raconte toujours qu'elle a des pistes cyclables. En réalité, il y a quelques marquages au sol, mais une piste cyclable, c'est quelque chose qui est parfaitement individualisé, protégé, de manière à ce que les vélos puissent circuler sans se faire accrocher par une voiture. On a quand même eu beaucoup, beaucoup de décès dans cette ville ou de blessés du fait des accidents de vélo. Donc je vais souvent à Barcelone, qui est une ville que je connais bien, pour y travailler ou pour le plaisir, et chaque fois je fais une photo des pistes cyclables barcelonaises. On peut là-bas circuler en toute quiétude et sécurité, et je l'envoie en principe à un ou deux élus de la municipalité pour qu'ils voient ce que c'est qu'une piste cyclable, parce que manifestement, ils n'en ont pas la moindre idée. Donc le vélo, oui, à Toulouse, non, dans les conditions actuelles. Et encore faudrait-il aussi, puisqu'on parle du vélo, encore faudrait-il aussi qu'on demande aux cyclistes de porter un casque. Il y en a très peu qui portent un casque. Or, en ville, quand vous tombez, c'est jamais sur du mou, hein, c'est toujours sur quelque chose de dur, voire du très dur. Je suis très surpris que l'on n'ait jamais légiféré là-dessus et obligé les cyclistes à porter un casque. C'est vraiment, vraiment pour leur sécurité. Quant aux voitures électriques, on en reparlera un jour, mais la voiture électrique est vraisemblablement quelque chose qui peut être extrêmement émetteur de CO2. Je crois que j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais vous parler des terres rares.
Eh bien, on fait ça, Jacques. Durant ce quinquennat, le gaspillage alimentaire devra être divisé par deux, tout comme l'utilisation de pesticides et la consommation de poissons surexploités. Un objectif concernant l'agriculture biologique est également fixé. Un quart des terres devront être certifiées bio d'ici 5 ans. Cette liste de mesures à prendre par Macron dans ce quinquennat est évidemment non exhaustive. Et même si on aimerait bien, la responsabilité de l'avenir de notre planète ne repose pas que sur ses épaules. Nous aussi, simples citoyens, avons notre carte à jouer, mais on en reparlera après le sujet principal assuré par Jacques.
Oui, on en reparlera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, les politiques, il a suffi d'ailleurs de regarder les programmes qu'il y avait pour l'élection présidentielle, donc une très vague idée de ce qu'est l'environnement, que sont les risques que court la planète. C'est complètement affolant quand on voit ça. Donc je crois qu'il faudra que ça parte de la base, et c'est bien parti, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont conscients de ces problèmes, beaucoup qui ont des idées, beaucoup qui mettent en place des solutions qui devront être relayées le moment venu au niveau des politiques. Mais si on attend que ces derniers, nos bons politiciens, prennent les mesures qui s'imposent, je crois qu'on va attendre longtemps, on sera déjà mort ou la Terre sera dans un état pitoyable. Donc il faut effectivement qu'on se prenne en main et que nous soyons, nous, citoyens de base, des forces de proposition.
Parfait.
On écoute un peu de musique là pour souffler, parce qu'on a dit quand même des choses terribles, un peu inquiétantes même, ouais. Donc il faut retrouver notre sérénité. C'est vous qui l'avez choisi, Chloé.
Et oui, et c'est « Where did you sleep last night » de Nirvana.
Ah, je préfère que ce soit vous qui le prononciez comme moi.
My girl.
Voilà, c'était du Nirvana. Et maintenant, Jacques, vous allez nous parler des terres rares, si je ne m'abuse.
Eh bien, vous ne vous abusez pas, Chloé, ce serait quand même curieux, avec tout ce qu'on a préparé, si en plus vous abusiez, donc vous connaissiez le sujet. Oui, je voudrais vous entretenir de ce sujet encore trop méconnu et qui pourtant va conditionner nos vies dans les dizaines d'années à venir, les terres rares ou autrement appelées métaux rares. Alors vous le savez, il y a eu deux révolutions industrielles majeures qui ont véritablement façonné le monde avec un grand thème. La première fut le fait d'une pierre noire qu'on a appelée charbon, la deuxième celui d'une huile de roche appelée pétrole. Et nous en arrivons à présent à la troisième de ces révolutions industrielles que les stratèges et les spécialistes appellent le pétrole du 21e siècle, les fameux métaux rares. C'est vous dire que c'est quelque chose qui va nous occuper des années et des années. Et donc ce siècle dans lequel nous venons de rentrer, bon ça fait 22 ans mais on est encore un peu au début, sera véritablement un siècle de métal.
Et à quoi servent-ils ces métaux rares ?
Ah oui, alors ça... Face au changement climatique, et si elle veut continuer à exister dans des conditions à peu près acceptables, l'humanité doit se lancer dans une grande aventure, changer sa façon de produire de l'énergie. Le capitalisme vert, qui est pour l'instant plus un mot qu'une réalité, commence donc à voir le jour, et celui-ci, ce capitalisme vert, se doit de remplacer la ressource énergétique qui rejette des milliards de tonnes de gaz carbonique par d'autres qui ne brûlent pas, et qui donc ne vont pas générer de CO2 qui est en train lentement de nous tuer. Donc les usages de ces terres rares vont se développer essentiellement, pas que, mais essentiellement dans deux domaines essentiels à la transition énergétique, les technologies vertes et le numérique.
Mais que vont apporter ces métaux rares à cette révolution énergétique ?
Eh bien, il faut savoir qu'une infime dose de ces métaux, une fois qu'ils seront industrialisés, travaillés, hein, il y a toute une chaîne, vont permettre d'émettre un champ magnétique qui permettra de produire davantage d'énergie que la même quantité de charbon ou de pétrole. Donc vous voyez, c'est considérable. Alors le mot révolution, véritablement, n'est pas usurpé parce que les prochaines années verront beaucoup de nos équipements quotidiens fonctionner grâce à ces métaux. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, même des technologies qui dépendent des moteurs techniques utilisent déjà ces terres rares. Ils permettent, par exemple, de concevoir des véhicules ou des avions plus performants, plus légers, par conséquent, moins consommateurs d'énergie fossile. C'est ce qu'on cherche un peu aujourd'hui. Alors, ces terres rares ne constituent pas une découverte nouvelle. Les minéralogistes les connaissent depuis le XVIIIe siècle. Mais à cette époque-là, et jusqu'à la nôtre, personne ne s'y intéressait puisqu'on ne voyait pas vraiment ce qu'on pouvait en faire. Et c'est vers les années 70, c'est pas jeune quand même, que les scientifiques ont découvert leurs fabuleuses propriétés magnétiques, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer avec elles des aimants surpuissants et de fabriquer avec ces mêmes aimants une électricité dites propres, mais elles ont aussi beaucoup d'autres qualités, par exemple catalytiques ou optiques, qui intéressent beaucoup plusieurs technologies vertes.
Et ces terres rares, comment s'appellent-elles ?
Alors là, on tombe dans le compliqué, puisqu'il y a des listes, plusieurs plus ou moins longues de celles-ci. La plus longue comporte 35 noms, et alors lorsqu'on le lit, en tout cas pour moi, qui suis un béotien dans ces matières, on prend conscience de notre totale inculture, parce que ces noms n'éveillent en nous strictement aucun souvenir, ou si peu, mais j'imagine que vous-même, ou peut-être des gens qui nous écoutent, pour eux, ça va leur parler. Alors je vais vous citer quelques-uns de ces noms. Sachez qu'il y a des terres rares légères ou des terres rares lourdes. Et là-dedans, on trouve, et je vous fais la liste de ces mots un peu ésotériques pour moi, germanium, tungstène, antimoine, niobium, beryllium, gallium, vanadium, tantale, borate, hafnium, scandium, spatfluor, magnésium, graphite naturel. Je ne vous fais pas la liste en entier, mais déjà, vous voyez que ce sont des termes auxquels on n'est véritablement pas préparé ni habitué à les manier.
C'est ça, nous ne sommes pas des hommes de science. Et alors, elles sont à l'état naturel, il suffit de creuser pour les trouver ?
Oui, alors elles sont à l'état naturel, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces terres rares sont associées à des métaux qui, eux, sont abondants, qui sont parfaitement banals. Mais ces terres rares qui sont noyées dedans, dans ces métaux, ne représentent que des proportions infimes. Par exemple, on ne trouve que 1002 fois moins de néodyme et 2550 fois moins de gallium que de fer. C'est dire que tout ça ne se trouve, ces terres rares, qu'en de toutes petites productions annuelles. 160 000 tonnes de terres rares par an, qu'on extrait en moyenne, contre 2 milliards de tonnes de fer, soit 15 000 fois moins. Donc vous voyez que quand on parle de choses rares, c'est vraiment des terres très rares. Le gallium n'est actuellement produit qu'à hauteur de 600 tonnes. Et pour vous donner un exemple, que vous puissiez comparer, on extrait 15 millions de tonnes de cuivre, soit 25 000 fois plus. Et donc vous connaissez la règle, hein, tout ce qui est rare est cher, voire très cher. Un kilo de gallium, c'est 150 dollars, soit 9 000 fois plus que le fer. Et le germanium coûte 10 fois plus que le gallium. Donc faites le calcul, vous allez voir que petite quantité, mais prix très élevé, ce qui reste quand même, finalement, ça fait des marchés en volume financier qui ne sont pas considérables.
En effet, c'est onéreux. Et alors, où les trouve-t-on ?
Alors, on en trouve dans... On dit que c'est rare, mais ce n'est pas si rare que ça, parce qu'il y en a, théoriquement, dans pas mal de pays du monde, en fonction du métal recherché. Par exemple, si vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver du platine, et du rhodium. Si vous allez en Russie, enfin, actuellement, il vaut mieux pas aller en chercher, vous aurez du palladium. Aux USA, vous aurez du beryllium. Au Brésil, vous allez trouver du nodium. En Turquie, borate. Au Rwanda, tantale. En République démocratique du Congo, en RDC, le cobalt. Mais bon, ça, c'est la théorie. C'est vrai que ces pays en extraient, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que la plupart de ces terres rares proviennent de Chine. Et c'est là que les difficultés commencent. Et elles sont de plusieurs ordres. Le premier, géopolitique, car nos besoins en métaux rares sont colossaux, vous l'avez compris, et ça va croître et se développer encore plus s'il y en va dans ces fameuses technologies vertes. Et pour satisfaire ces besoins, nous dépendons aujourd'hui, et certainement pour longtemps encore, du bon vouloir de celui qu'on appelle l'empire du milieu. Les Occidentaux ont eu des politiques à cet égard assez incohérentes et légères, puisque nous avons exporté toute notre industrie chez les Chinois au motif qu'ils étaient beaucoup moins payés que les nôtres. Et donc c'était quand même extrêmement pratique. Résultat, désormais, toutes nos industries stratégiques, telles que les énergies renouvelables, les nouvelles mobilités, le numérique, les biotechnologiques, et d'autres encore, eh bien pour toutes ces techniques, nous ne disposons plus d'aucune indépendance.
Pratiquement, cela se traduit comment ?
Par exemple, alors on va revenir sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les batteries des voitures électriques, par exemple, elles fonctionnent grâce à des terres rares. Ce que les Chinois ont parfaitement compris, et si vous regardez bien, 6 des plus grands constructeurs mondiaux de voitures sont chinois. Au passage, rappelons que la voiture électrique peut être une bonne option si l'électricité a une provenance non fossile. Le nucléaire, par exemple, qui a d'autres inconvénients, mais qui nous permet de ne pas dégager de CO2 dans l'oxygène. Alors, sinon, en Chine, par exemple, où les 3/4 des énergies sont d'origine fossile, la voiture électrique va générer davantage de CO2 qu'une voiture conventionnelle. C'est paradoxal, il faut faire très attention. On nous dit acheter des voitures électriques, fabriquer des voitures électriques, vous verrez, c'est extraordinaire. Non, pas tant que ça. Et peut-être qu'on sera obligé un jour de faire une brutale marche arrière. Alors toujours dans le registre de la dépendance, et on sait depuis cette guerre que la Russie a fait à l'Ukraine, où on s'est aperçu que le monde était complètement interdépendant, sachez que les équipements, par exemple, militaires les plus sophistiqués, on a beaucoup parlé du chasseur américain F-35 que les Allemands viennent d'acheter, eh bien, ils dépendent totalement des terres rares chinoises. Dans la période que nous connaissons aujourd'hui, je crois que ce n'est pas utile d'en dire plus, c'est quand même très, très inquiétant. Les Chinois ont pris fort intelligemment une part prépondérante dans les terres rares et aujourd'hui ne font pas beaucoup de bruit. Mais si demain ils disent, on ne fait plus de terres rares, comme par exemple les Indiens viennent de faire au sujet du blé, en disant le blé, nous allons le réserver à notre consommation personnelle, et on en parlera bientôt dans une édition de Ça va mieux, l'émission politique de la station, si les Chinois font de même en disant les terres rares, on les garde pour nous, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va être extrêmement mal. Alors on va se tourner peut-être vers quelques autres pays, mais qui n'auront pas vraisemblablement assez de terres rares pour nous fournir, moins que les Chinois. Les Chinois, d'ailleurs, très malins. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette question. Les Chinois ont commencé par produire ces terres rares et puis, progressivement, ils ont noyauté toute la filière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'aller jusqu'à la fabrication de ces fameux aimants avec des terres rares. Donc, globalement, ils n'ont plus besoin de nos technologies. Aujourd'hui, dans le sens où l'on va, ils nous tiennent complètement.
Et oui, ils sont très forts. Alors, vous évoquiez plusieurs difficultés.
Oui, je rebondis, ils sont très forts. Et nous, on a été certainement extrêmement négligents, optimistes et passifs. Oui, plusieurs difficultés parce que, et on parlera pas de tout aujourd'hui, mais extraire ces métaux, ce n'est pas simple. Ça nécessite l'utilisation de procédés extrêmement polluants, beaucoup plus que ceux générés par exemple par l'industrie pétrolière, c'est vous dire. Et donc nous sommes en plein paradoxe. La production des métaux indispensables à créer un monde plus propre est un processus éminemment plus polluant et destructeur de la nature. Et donc les hommes, de la nature et des hommes, pardon, qui vivent dans un large rayon autour de ces mines. Et c'est la Chine, on vient beaucoup d'évoquer la Chine, et les Chinois qui, revers de la médaille, payent le prix fort puisqu'ils ont mis tout en œuvre pour avoir la haute main sur la filière. Alors bien sûr, ils l'ont, mais ils l'ont à quel prix? Tous les pays, il faut le reconnaître, tous les pays producteurs se heurtent tout de même au même phénomène. On sort des monceaux de minerais que l'on va dégraisser, nettoyer, purger pour récupérer quelques grammes de terres rares. Ça se fait au prix d'une débauche d'eau, mais débauche aussi de produits qui vont après s'évaporer dans la nature. Enfin, ils ne s'évaporent pas tellement, ils s'y incorporent et notamment ils vont polluer toutes les terres. En Chine, ça peut être dramatique. Et il faut savoir qu'il y a des mines qui sont autorisées et puis il y a des mines un peu sauvages parce que la Chine, ça reste parfois encore un peu, si je puis dire, le Far West. Et autour de ces mines sauvages et même d'ailleurs des mines de l'État, l'état des populations au niveau des cancers et autres maladies est absolument catastrophique. Greenpeace dénonce régulièrement, et c'est un peu son job, mais il le fait bien, les mensonges de l'industrie minière, parce que l'industrie minière est certainement ce qui a le plus pollué un certain nombre de pays. Regardez par exemple l'Australie, qui ne veut pas que cela soit dit, et pourtant c'est une réalité. L'industrie minière pollue énormément, et Gonzalo Strano, qui est un des membres de Greenpeace, nous dit, et je le cite, « Selon nous, la mine durable n'existe pas. Non seulement son objet et par essence de vider le sol, mais en plus le recours à des produits chimiques et l'utilisation de grandes quantités d'eau pose problème », fermez les guillemets, c'est ce que je viens de vous dire, qui est là certifié par Greenpeace, qui travaille sur cette question, une question qui est de plus en plus prégnante.
Mais alors cela signifie-t-il que les Occidentaux se sont désintéressés de cette question ?
Ah ben oui, en quelque sorte, hein, tout le monde connaissait le coût d'accès environnemental et humain à cette terre rare. On n'a rien découvert, hein, on le savait. Américains et Français ont préféré fermer les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons exporté notre pollution en Chine, laquelle a profité de la situation. Bon, mais à quel prix pour elle ? Mais ça la regarde. Enfin, ça nous regarde un peu aussi parce que ça va nous impacter directement ou indirectement. Pour reprendre les termes d'ailleurs d'un responsable français qui le dit très crûment, et je le cite, « Il y avait de la merde dont nous ne voulions pas fermer les guillemets. » Alors, avec une pollution annuelle, une production, pardon, mais aussi une pollution annuelle, de plus de 100 000 tonnes, le pays détient ce monopole des terres rares, ce que je vous dis déjà depuis un petit moment. Les ouvriers des usines de raffinage, ils font de l'électrolyse, il faut le savoir, à 700 degrés, sans casque, en tongs et en short. Imaginez un peu la scène. Quant à ceux qui sont chargés de l'extraction, et ça à peu près dans tous les pays producteurs, vous avez eu un certain nombre de reportages là-dessus, on est quand même plus proche de méthodes dignes du Moyen-Âge que du 21e siècle. Bref, nous avons transféré la responsabilité de la production aux différents pays miniers de par le monde, et l'Occident également externalisé les impacts sociétés qui vont avec, parce que vous savez que dans ce genre de production, ben, qu'est-ce qui se passe ? Des conflits, de la corruption, du marché noir, la violation des droits de l'homme, mais ça on le dit tous les jours, mais tout le monde s'en moque, et puis divers conflits qui vont tourner autour de ces terres rares et de cette extraction. Alors certains font le sale boulot, et nous en France, nous crions, urbi et orbi, mais il n'y a pas qu'en France, hein, que nous sommes propres et qu'il n'y a pas plus vert que nous. On peut le dire directement, c'est une grande et belle foutaise en réalité. D'abord, il faut savoir que ou la planète se sauvera dans sa globalité ou elle ne se sauvera pas. Et le fait que nous nous parfumions d'un pays de plus en plus vert, tout le monde veut faire des très belles choses, ben c'est très facile. Mais nous avons besoin, pour avancer, de ces terres rares et d'autres aussi. Et nous avons chargé des pays, souvent des pays du tiers-monde d'ailleurs, de faire le sale boulot pour nous. Alors, je ne sais pas si on doit être très très fier de dire que notre pays est vert. Il est vert parce que d'autres sont en train de s'enfoncer dans la maladie, dans la pollution, dans la destruction de la biodiversité.
Donc si je vous ai bien compris, Jacques, notre fameuse révolution verte est loin d'être si verte que ça.
Je crois que vous m'avez bien compris, Chloé. On nous vend quand même beaucoup de vent avec beaucoup de conviction. Eh bien oui, oui, oui. Les ravages environnementaux humains causés par l'extraction de ces métaux rares, on ne peut pas le cacher, sont considérables. La transition énergétique et numérique démarre quand même bien mal. Beaucoup veulent fermer les yeux sur ces risques. Ils préfèrent un monde connecté à une planète propre. Si on rajoute le fait que nous nous rendons aussi dépendants de la Chine, qui est en priorité, de quelques autres pays, bien, ils vont nous le faire payer un jour ou l'autre, et je crois qu'on peut nourrir de fortes inquiétudes. En réalité, nous remplaçons quelques problèmes par d'autres problèmes, ne fait que les déplacer, et les civilisations, ça il faut bien le reconnaître, n'ont à rien progressé, ni tiré les enseignements des dérèglements actuels. Alors le projet répété ad nauseam des tenants de la transition énergétique et numérique et de réduire l'impact de l'homme sur les écosystèmes aboutit aujourd'hui à l'effet inverse, accroître notre mainmise sur la biodiversité. Et ces progrès, parce qu'on a fait des progrès, on a des techniques, mais elles ne servent à rien puisqu'elles n'ont pas fait progresser l'homme. Alors vous savez ce que disait Albert Einstein, il nous avait prévenu en nous disant « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Ça paraît assez logique dit comme ça, mais on est en plein dedans. Alors sur cette question, et je vous donnerai des références en fin d'émission, je vais vous donner la conclusion d'un des spécialistes les plus avisés de cette question, qui est Guillaume Pitron. Et je cite Guillaume Pitron, « Une révolution industrielle, technique et sociale n'est porteuse de sens » que si elle accompagne une révolution de nos consciences, fermez les guillemets, nous n'allons toujours pas dans le bon sens, nous allons toujours aussi vite, aussi rapidement dans le mur, en nous satisfaisant de pseudo-progrès qui n'en sont pas du tout et qui vont nous plonger dans d'autres problèmes. Donc cette troisième révolution énergétique est celle des terres rares, sera peut-être aussi polluante, aussi destructrice, aussi conflictuelle que l'a été le pétrole ou le charbon en leur temps.
Alors, pour souffler un peu, on va peut-être se faire une petite pause musicale, Jacques, non ?
Oh, oui, oui, là, je crois qu'on en a bien besoin. Moi, je vous propose d'abord un rien de poésie dans ce monde si dur. Écoutons la chanteuse Safo qui va revisiter Ferré, mais elle va le revisiter sur le mode flamenco. Ça s'appelle « Je vous vois ». Encore.
Je vous vois encore. Je vous vois encore. En robe d'été, blanche et jaune, avec des fleurs de rideau. Mais vous n'aviez plus l'humide de gaieté, et plus délirant de tous nos tantôt. La 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 la. La 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 la. La petite épouse et la fille aînée étaient apparues avec la toilette. C'était déjà notre destinée qui nous regardait sous votre voilette. La 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 la. La 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 la. Soyez pardonné, et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil, en mon souvenir qui vous cache là l'éclair de côté que coulait votre œil. La 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 la. La 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 la.
Voilà la chanteuse Sappho Ferré, un peu de flamenco, voilà, qui nous a donné un peu de légèreté dans cette émission. On rencontre des horreurs et j'en suis profondément désolé, mais je crois qu'il arrive un moment où il faut regarder la vérité en face, l'état du monde en face, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas renverser cette tendance, mais pour cela, il faut être conscient déjà de l'état des lieux. Et après, on fera peut-être ce que j'appelais de mes voeux au départ, et d'autres dirigeants politiques, hein, M. Mélenchon, M. Macron, faire une planification, c'est de la méthode, mais ils font commencer à en passer par là. Bon, on repart sur nos brèves, qui ne sont pas si brèves que ça, Chloé, des initiatives individuelles.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, dans la transition écologique, les citoyens ont aussi leur carte à jouer. Et ça tombe bien, parce que ça nous amène donc à notre sujet, les initiatives individuelles. Bien souvent, ce qui ressort quand on parle d'écologie et de faire sa part, c'est le sentiment d'impuissance qu'ont les gens. Alors même si ce ne sont pas les citoyens qui feront les plus grosses actions et qu'on peut toujours remettre la faute sur de grandes enseignes de pétrole, des grandes entreprises ou même sur nos dirigeants, on peut nous aussi, à notre échelle, prendre de bonnes habitudes. D'abord, la mesure la plus efficace, paraît-il, serait de diminuer notre consommation de viande, idéalement à 2 fois par semaine, voire de l'arrêter complètement pour les plus courageux. Alors, quand on dit ça, ça ne ravit pas beaucoup les gens en général. Par exemple, vous, Jacques, est-ce que ça vous semble réalisable de diminuer, voire d'arrêter la viande ?
Alors, moi, oui, pour ce qui est de ma part, est-ce que vous me posez la question ? Je ne l'ai pas arrêté, mais je l'ai drastiquement diminué, effectivement, parce que quand on commence à s'intéresser aux problèmes d'écologie, je dirais, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, je dirais non, je mange de la viande à tous les repas, je fais des orgies de viande. Quand on commence à travailler sur les problèmes environnementaux, sur les problèmes de pollution et tout ce qui va avec, là, vous dites, oh là, mais on va se calmer quand même. Donc l'iPhone ou le téléphone, quelle qu'en soit la marque, bah, vous le gardez plusieurs années. Vous voyez, le mien, il a complètement détruit, il est tombé 20 fois. On le garde, on conduit moins vite, on se déplace moins. On est beaucoup plus regardant sur les déplacements. Bah, moi, je vais à Paris en train, je ne prends plus l'avion et Dieu sait que je l'ai pris. Et Dieu sait que je bats ma coulpe encore. Donc diminuer, oui, la viande, je ne l'arrêterai pas forcément, mais je l'ai diminué terriblement. Et je pense que beaucoup, d'abord c'est un problème de santé publique, mais au lieu de ça, c'est un problème de réchauffement climatique.
Eh bien c'est parfait, vous nous montrez le bon exemple.
Alors, je ne sais pas, je me l'applique à moi-même, parce que si on a des valeurs que l'on défend, et si on dit, ben, faites ce que je vous dis et pas ce que je fais, je trouve ça pas très cohérent. Donc j'essaye d'être à peu près logique avec moi-même. C'est pas toujours simple, hein. On a de très vieilles habitudes, on a une éducation, quelques dizaines d'années pour ce qui me concerne, qu'il faut entièrement balayer pour revenir à une autre forme de vie, une autre façon d'envisager effectivement notre présence sur cette planète.
Ensuite, une solution individuelle et à la fois collective pour réduire notre empreinte carbone serait de rentrer dans le cercle vertueux du reconditionné. Nous ne sommes pas sans savoir que l'industrie des vêtements et du matériel électronique sont source de beaucoup d'émissions de CO2. Donc le principe est simple, donner au lieu de jeter, réparer et acheter des objets déjà utilisés qui ont été eux-mêmes déjà réparés. Ça permet de ne pas produire en quantité trop importante et de rentabiliser ce qui existe déjà. Pour ça, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers des endroits comme les recycleries, qui naissent un peu partout en France ces années-ci, des plateformes comme Back Market, Le Bon Coin ou encore Vinted.
Ou même, je vais en rajouter une autre, l'entreprise Loom, L2OM, pardon, qui a été fondée par une dirigeante qui m'a beaucoup appris ce que c'était que la pollution à partir des vêtements. Ça peut sembler comme ça, donc les vêtements. Eh bien, on fera une émission peut-être avec elle, mais en tout cas, on parlera de la pollution engendrée par l'industrie textile. Et vous verrez que c'est absolument colossal.
Oui, en effet, oui. Et enfin, si je devais en détailler une dernière, ce serait le choix de nos banques. Mais quel est donc le rapport entre l'écologie et les banques ? En fait, les différentes banques se servent de l'argent qu'ils abritent pour investir dans différents projets et des entreprises. Mais bien souvent, pour beaucoup de banques bien connues, les projets et entreprises financées ne sont pas les plus écologiques.
Ce qui les intéresse, c'est de faire du bénéfice pour servir les dividendes à leurs actionnaires. Si vous prenez certains fonds, par exemple, parlons d'un, le HSBC, que je connais bien, a été racheté par un fonds de pension américain qualifié sur Wikipédia, hein, donc tout le monde peut le vérifier, de fonds vautours. Voilà, je ne pense pas que des fonds vautours vont beaucoup s'intéresser à l'avenir de l'humanité lié à celui de la planète.
Et c'est un euphémisme car, par exemple, Total Energy, entre autres, est financé par la Société Générale, pour n'en donner qu'un exemple. On peut donc se renseigner sur les projets financés par nos banques. Il existe des applications très bien qui nous aident à faire ça. Et en changer, si on veut bien prendre ce temps pour se tourner vers une banque plus respectueuse de l'environnement. Alors, pour vous donner quelques exemples, nous avons les banques comme Gringotts, qui d'ailleurs est un jeu de mots en référence à Harry Potter pour les fins connaisseurs, Crédit Coopératif ou encore la Banque Postale.
Et après, on se pose la question de savoir si l'entreprise doit avoir une action citoyenne et éthique ou si elle est là uniquement pour servir de l'argent à ses salariés, à ses fournisseurs, à l'impôt bien sûr, au trésor public et ensuite plus largement à ses actionnaires. Est-ce qu'une entreprise... Alors c'est une question que l'on a débattue dans l'émission Economica avec ma partenaire Anne Nisla, de savoir quel était véritablement le rôle d'une entreprise, d'une société, d'une compagnie, appelez-les comme vous voulez, dans un pays. Est-ce qu'elle doit montrer l'exemple ou pas? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'on peut lui imposer ce rôle? Il y a là toute une question de philosophie politique et économique extrêmement intéressante à creuser, mais que nous creuserons dans cette émission Economica.
Et évidemment, outre ces mesures qui peuvent paraître assez drastiques, on a tous les gestes du quotidien comme le tri sélectif qu'on ne présente plus, le fait de réduire l'avion, privilégier les transports en commun, le covoiturage. Et d'ailleurs, vu la situation actuelle, les conducteurs seront ravis de moins se rendre à la pompe à essence, Jacques.
Ah oui, ils en sont ravis. Alors soulignons quand même que l'État, quoi qu'il en coûte, fait un effort, puisque je crois qu'on est entre 15 et 18 centimes de dons de l'État, quasiment, il faut le dire, sur chaque litre que nous achetons. Après, certains sont tenus de prendre leur véhicule quand vous travaillez loin, quand vous avez besoin de vous déplacer, qu'il n'y a pas assez de transports en commun, où ils sont mal faits ou mal pensés. Et donc, et puis on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on a quand même poussé beaucoup les gens à avoir leur petit pavillon dans des banlieues plus ou moins éloignées en fonction de leur niveau de ressources, et des banlieues qui ne sont pas desservies ou insuffisamment ou mal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la voiture. Les Gilets jaunes s'en sont beaucoup, beaucoup pleins. Ne l'oublions pas. Ils avaient une manière d'expression qui n'appartenait qu'à eux, mais sur le fond, ils avaient véritablement un malaise financier qu'il faut prendre en compte.
Il faut réouvrir les lignes ferroviaires.
Voilà, on pourrait le dire. Alors, on est à une époque, on le sait assez largement, on ne peut plus l'ignorer, une époque où l'on vote et l'on revote, et nous avons devant nous des législatives avec un enjeu.
Eh bien oui, et ben justement, si vous le voulez bien, maintenant, on va reprendre un tournant politique, et donc il s'agit maintenant des élections législatives qui approchent à grands pas. Alors, il est de notoriété publique désormais que l'échéance de pouvoir inverser la courbe du réchauffement climatique se rapproche. Emmanuel Macron a été réélu et, comme on l'a compris tout à l'heure, il a du pain sur la planche. D'autant plus que son dernier quinquennat n'était pas très brillant en matière d'écologie, hein, je pense que c'est un euphémisme là aussi, bien que ce dernier ait verdi sa campagne et promette de grandes avancées. Les législatives ont aussi leur mot à dire. Alors le parti LERM, donc d'Emmanuel Macron, ne porte pas dans ses valeurs des priorités écologiques, hein, au départ, on peut le dire. Alors intéressons-nous plutôt aux partis plus tournés vers la gauche qui en ont fait une priorité depuis un moment. Pour ces législatives, les partis de gauche sont représentés par une récente union, la NUP, si je le prononce bien, Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. Pour rappel, c'est une initiative du parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et elle comprend le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Leur objectif est de mettre toutes les chances du côté de la gauche pour avoir une cohabitation à l'issue des législatives qui désigneront notre Premier ministre.
Et donc quel rapport avec l'écologie, Chloé, que ces élections législatives?
Eh bien Jacques, le rapport c'est que ces partis de gauche l'ont compris, cet enjeu écologique pressant. Ils soulèvent des mesures, des solutions à exécuter rapidement pour tenter d'améliorer notre sort. Donc ces élections législatives sont un enjeu pour la situation écologique et le tournant qu'elle peut prendre ou non. Donc sans leur dire pour qui, on peut peut-être recommander aux auditeurs d'aller voter, Jacques.
Oui, on doit toujours leur recommander d'aller voter, à ceci près qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure en liminaire, quand on regarde les programmes des différents partis politiques, on se rend bien compte que soit ils en soient très éloignés, soit certains ont une conscience un peu plus aiguë des problèmes, émettent un certain nombre de solutions, mais qui tiennent plus du replâtrage ou du politiquement correct pour faire ambiance, que des choses qui réellement permettraient d'avancer sur le plan écologique, tout en ajoutant quand même que si la France pouvait montrer l'exemple dans un certain nombre de domaines, c'est toujours très bien, mais que la planète se sauvera dans sa globalité avec tous les pays qui iront dans le même sens ou ne se sauvera pas. Et là, bon, je pense être un peu pessimiste sur cette question. J'aimerais, hein, mais je ne sens pas très bien une union de tous les pays autour de la vertueuse écologie. Désolé d'être peut-être un peu trop pessimiste. Voilà, nous sommes presque à l'issue de notre émission. On va quand même vous donner quelques conseils, entre guillemets, culturels, peut-être pour aller un peu plus loin sur le thème. Chloé.
Alors oui, alors moi aujourd'hui, j'ai choisi de donner un conseil culturel qui sortira peut-être des conseils habituels de l'émission, car il s'agit d'une chaîne YouTube intitulée « Vers chez vous ». Alors cette chaîne est entretenue par une comédienne, vidéaste, féministe et écologiste, Swann Périssé. Et le concept est simple, elle se rend chez des abonnés qui ont pour objectif de mettre plus de verre chez eux, d'où le nom de la chaîne, que ce soit en installant des panneaux solaires, en construisant une mare ou encore un compost, la youtubeuse aide les volontaires à réaliser leurs initiatives écologiques à leurs échelles. Donc je vous encourage vivement à vous rendre sur sa chaîne qui compte déjà un certain nombre de vidéos, c'est Vers chez vous.
Eh bien, nous suivrons ce conseil, on ira un peu se renseigner pour voir ce qui se fait vers chez nous ou vers chez vous, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors moi, je vais revenir sur les métaux rares et vous dire, je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mais il faut véritablement réfléchir et travailler cette question. Et donc pour ça, rien de mieux que le livre de Guillaume Pitron que j'ai cité tout à l'heure, hein, qui m'a beaucoup inspiré ce que je vous ai dit, bien évidemment. « La guerre des métaux rares », c'est « Au lien qui libère ». Lisez-le, je pense que quand on a fini le livre, on ne voit plus tout à fait ni le monde, ni surtout notre avenir de la même façon. Guillaume Pitron est un journaliste, hein, il est journaliste au Monde Diplomatique, à Géo, National Geographic, il est spécialiste de la géopolitique des matières premières, auteur également et réalisateur de documentaires, et ce livre, La guerre des métaux rares, dont je vous parle, a été récompensé par beaucoup de prix, dont celui du meilleur livre d'économie 2018, donc franchement, si vous avez quelque soit dépensé, aujourd'hui il est dans une édition de poche, « La guerre des métaux rares, lien qui libère » de Guillaume Pitron. C'est un livre, allez, on va le dire, à peu près incontournable si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui et surtout ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Voilà, eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette émission. C'était Arcania, une émission de Jacques Laverne avec Chloé Morand-Bridé.
C'est ça.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'autres sujets, pour essayer de vous donner des pistes de réflexion et d'informations. À la réalisation, nous avions Tiffaine Lemaine et Marcou, notre corse de service, Marcou Pazzoni. Le podcast de cette émission sera à votre disposition avec tous les autres, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt et un très bientôt qui sera donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Arcania. Belle journée.
À toutes et à tous.
Voilà, merci Chloé, à très bientôt.